Je bénis le Seigneur parce que, eh bien, je crois que le Seigneur est vivant. Alléluia. Et je crois que l'église de Gap, c'est aussi une église pentecôtiste. Alléluia. Je ne sais pas si vous aimez la Pentecôte. Moi, j'aime particulièrement la Pentecôte. C'est important d'avoir cette fibre pentecôtiste et de vivre véritablement la Pentecôte. Il y a quelques années, quelqu'un m'a raconté l'histoire d'un missionnaire américain, je crois, et ce missionnaire, il était dans une rue, là, dans une des villes où il travaillait, et dans cette rue, il voit un monsieur qui était sur le sol, assis au sol, complètement bien handicapé, et ce monsieur faisait l'aumône. Alors, demandez l'aumône et le missionnaire passe devant lui, il met la main dans la poche, il prend une petite pièce et puis il lui donne la pièce et il continue son chemin. Il fait quelques mètres seulement, et le Saint-Esprit lui parle. Vous croyez que le Saint-Esprit peut nous parler ? Et le Saint-Esprit lui dit exactement ces mots. « Donc, toi, tu as l'or et l'argent. » Il s'est arrêté net. Il a fait demi-tour. Il est allé voir le pauvre homme et il lui a dit « Rends-moi la pièce que je t'ai donnée. Redonne-moi ma pièce. » L'autre, il ne comprenait pas pourquoi. Hein. « Je veux ma pièce. » Alors, il lui a rendu la pièce et puis il le regardait. Il lui a dit « Maintenant, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et sois guéri. » Et à l'instant, il a été guéri par le Seigneur. C'est la Pentecôte, ça, pas vrai ? Alléluia. Moi, je veux croire dans la Pentecôte. Je veux croire à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Je veux croire à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Je veux croire à l'action du Saint-Esprit dans notre quotidien. Alléluia. Je veux croire que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. L'Église de Pentecôte n'a pas oublié cette vérité. Elle n'a pas mis de côté cette vérité. Nous sommes persuadés que le Saint-Esprit, il agit encore aujourd'hui. Il révèle le Christ vivant, que Dieu soit béni. Il vient et il souffle dans notre cœur. Eh bien, cette vie véritable, cette vie abondante, on a tellement besoin de vivre cette vie de Dieu. Alléluia, je crois que le Seigneur va nous la donner, cette vie-là. Excusez-moi si je suis un peu enthousiasmé par ces choses, mais je le suis en réalité, parce que c'est tellement formidable de vivre la Pentecôte. Je ne vais pas vous parler de la Pentecôte quand même, c'était juste pour vous parler de ce qui boue dans mon cœur un peu là. Mais j'aimerais quand même entretenir avec vous de certaines choses importantes ce matin. Il y a parfois des choses qui ne sont pas simples en fait. Hein. Même à nous, pasteurs, dans notre ministère, il y a parfois des choses qui ne sont pas simples, mais quand même... Nous devons non seulement les vivre, mais aussi les partager. Si je devais donner un titre à mon message ce matin, ce titre serait « Quelle sorte de chrétien sommes-nous » ou « Quelle sorte de chrétien nous désirons être ?» Et ça, c'est très important, en fait. Et pour ça, je vais lire avec vous un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6. Et au verset 60. Chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? » Alléluia. C'est l'Esprit qui vivifie, c'est-à-dire l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Amen. Verset 60 dit, « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Cette parole est dure. Et au verset 66, il est précisé ceci, « Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » Pourtant, c'est le maître. Vous le savez tout aussi bien que moi, Jésus était rempli d'un amour extraordinaire et d'une compassion que nul être humain ne peut avoir. Qui pourrait comparer son amour à l'amour de Christ? Qui pourrait comparer sa compassion, sa miséricorde à la compassion et à la miséricorde du Christ? Personne. Mais je suis persuadé que lorsque Jésus a parlé ce jour-là, même si cette parole leur a paru dure, je suis persuadé que, eh bien, dans la voix du maître, dans le ton, la tonalité, l'intonation, et au fond de son cœur même, il y avait un grand amour. Et pourtant, ils ont dit « cette parole est dure ». Et plusieurs même se sont retirés. Je crois qu'il y a des raisons à cela. La première, c'est qu'ils ont eu une mauvaise compréhension de ce que Jésus venait de leur dire. Et à partir de cette mauvaise compréhension, ils ont pensé que cette parole, elle était dure, et ils se sont retirés. La Bible dit même ils ne sont plus allés avec lui. On bénit le Seigneur, et j'espère que vous remerciez Dieu pour cela, parce que je crois que Dieu nous a accordé la révélation de sa parole. Et quand on lit les mêmes paroles que Jésus a prononcées ce jour-là, parce que nous en avons eu la révélation, nous ne trouvons pas que cette parole est dure. Nous la trouvons juste, nous savons que c'est la vérité, et comme Pierre, nous pouvons dire alors, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je pense que c'était une mauvaise compréhension. Et puis, je pense aussi qu'ils n'avaient pas réalisé que les paroles de Jésus, eh bien, elles étaient esprit et vie. Si vous lisez la version « parole de vie », lorsque Jésus dit « les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie », la version « parole de vie » dit ceci, « les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit-Saint et elles donnent la vie, elles communiquent la vie ». Ainsi, eh bien, ces gens n'ont pas réalisé cela et ils sont alors partis, abandonnés, ils ont abandonné le Seigneur, ils ont quitté le Seigneur. Ils n'ont pas saisi à ce moment-là que ce qu'ils entendaient, ça venait vraiment du Saint-Esprit et que cette même parole qu'ils avaient entendue avait le pouvoir de leur communiquer la vie. Le livre que nous avons entre nos mains et que j'espère que nous aimons tous, ce livre contient la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, eh bien, elle est esprit et vie. C'est-à-dire que cette parole a le pouvoir de nous communiquer la vie, que le nom du Seigneur soit béni. Un grand-père qui venait dans mon église était dans son champ en train de tailler des oliviers. Il était sur l'arbre et il est tombé, il a fait une chute. Et il est tombé sur la tête. Donc il est resté inconscient un moment et puis au bout d'un moment, il s'est réveillé. Et il est rentré dans sa maison, il est allé voir sa femme, il lui a expliqué ce qui s'était passé. Ils ont fait venir le médecin, il a regardé un petit peu, il avait l'air d'aller pas trop mal, donc bon, on a dit ça va le faire. Sauf que quelques jours après, Le dimanche matin, il prend la voiture avec sa femme pour venir à l'église et il a un malaise. Alors qu'il conduit, il a un malaise et ils vont rentrer dans un mur. Heureusement, il ne roulait pas trop vite. Et donc, les pompiers sont arrivés et on l'a amené directement à l'hôpital. En fait, eh bien, la chute avait occasionné un problème au niveau de la tête. Il était en train de mourir. Donc, on a averti son épouse, on lui a dit que ça serait très compliqué. Et lui m'a expliqué ensuite cela, il m'a dit, tu sais, j'entendais ce que les uns et les autres disaient. J'étais certes dans le coma, mais j'entendais les conversations des uns et des autres. Et il me dit, et j'ai compris que j'étais vraiment dans une situation très difficile, très compliquée, et que je pouvais y rester. Et il me dit, dans mon coma, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. N'oubliez pas, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Il dit, dans mon coma, tout d'un coup, un verset de la Bible est revenu à mon esprit. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il me dit, au moment où ce verset remonte à mon esprit, je sais alors à ce moment-là que je vais sortir de cette difficulté. Et quelques jours après, il sortait de l'hôpital. Les paroles que je vous dis, son esprit est vie. Ça lui a communiqué eh bien, quelque chose de la vie de Dieu lorsque tout d'un coup, cette parole de l'Écriture est revenue à son esprit. Et c'est pour ça, c'est important de plonger nos regards dans la parole du Seigneur. Ouais. Il semble que beaucoup ont été scandalisés. Et la version, toujours parole de vie, dit choqués. Des gens ont été choqués. Quand ils ont entendu Jésus parler, ils ont été choqués. Je me dis encore, quand les gens m'entendent de moi, ils peuvent être choqués. Mais quand on entend le Seigneur parler quand même. Mais ils l'ont été. Choqués, scandalisés par les paroles du Seigneur. Alors, je ne sais pas si ce matin, je vais vous scandaliser ou vous choquer un peu. Pardonnez-moi de le faire si c'est le cas. Mais je voudrais vraiment quand même qu'on regarde avec sérieux certaines réalités de la parole de Dieu. Quelle sorte de chrétien je suis ou quelle sorte de chrétien je désire être? Je vais prendre deux points importants. Le premier de ces points, c'est est-ce que je suis un chrétien de nom ou je suis un chrétien authentique? C'est déjà important ça. Suis-je un chrétien de nom ou un chrétien authentique? Jésus dit, par exemple, beaucoup me disent « Seigneur, Seigneur ». Mais Jésus dit « Je ne les connais même pas ». Dans 2 Timothée 3, vous connaissez ce texte où l'apôtre dit à Timothée « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Est-ce que vous croyez qu'on est dans les temps des derniers jours? Dernièrement, je suis allé sur Internet écouter un rabbin. C'est la première fois que je faisais ça. Et j'allais écouter parce que le titre qu'il y avait sur le message qu'il allait donner, c'était celui-ci, le Messia arrive. Ah, ça m'a interpellé, j'ai dit, tiens, je vais aller écouter pour voir ce qu'il dit. Et c'était très intéressant. Parce qu'à partir des Écritures, je dis bien à partir des Écritures, voilà ce qu'il affirmait. Il disait ceci, dans quelques temps, eh bien, il va y avoir des événements prophétiques qui vont se réaliser. Et il dit notamment un événement. Un événement va se produire par rapport à Israël. Je ne vous dis pas tout ce qu'il a dit, hein, mais... En tout cas, ça a attiré mon attention. Il dit, il va y avoir dans l'histoire, là, eh bien, tout d'un coup, un rassemblement de beaucoup de nations qui vont venir faire la guerre à Israël. Waouh ! J'ai dit, je vais dresser mon oreille un peu plus. Et il dit, ces nations vont venir, elles vont attaquer Israël. Et Israël va se retrouver en grande difficulté. Et au moment où Israël va se retrouver en grande difficulté, Israël va appeler son Messie. Et à ce moment-là, le Messie va descendre pour venir défendre Israël. Et il dit, sachez-le, cette chose-là arrivera bientôt. Quand j'ai entendu ça, ça a vraiment éveillé mon oreille. J'ai dit, waouh ! Ils attendent donc pour eux la venue du Messie. Ils sont persuadés que le Messie va venir pour eux. Nous qui sommes de la Nouvelle Alliance et qui avons le Nouveau Testament, nous savons certaines choses. Pas vrai ? Le retour de Jésus, sachez-le, se fait en deux étapes. En deux étapes. La deuxième étape, c'est celle dont a parlé ce rabbin. Israël qui se trouve en difficulté avec des nations qui viennent l'attaquer. Et Israël qui alors qu'il est vraiment en grande difficulté, se met à dire, eh bien, au Messie de venir les aider. La Bible dit, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et Jésus va descendre du ciel, mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Et à partir de là, il va défendre Israël. Et il va anéantir avec son armée, il va anéantir les armées qui sont venues attaquer Israël. Mais ça, c'est la deuxième étape du retour de Jésus. Car si eux attendent leur Messie, s'ils attendent la venue de leur Messie, nous attendons le retour du Messie. Car nous savons qu'il est déjà venu une première fois, mais il revient une deuxième fois. Et je vous disais que cette étape du retour de Jésus se fait en deux fois. La deuxième étape, c'est celle dont a parlé le rabbin. Jésus descend du ciel et il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais la première étape qui va précéder cette deuxième étape, la première étape, c'est Jésus qui apparaît sur les nuées du ciel. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et voilà que l'Église, avec ceux qui ont été ressuscités, l'Église est amenée dans le ciel à la rencontre du Seigneur pour être avec Jésus pour toujours. Et ça va arriver avant la deuxième étape. Alors je me suis dit, si les rabbins et les autres nous disent aujourd'hui que ce qu'il va arriver arrive bientôt, à combien plus forte raison nous devons dire Jésus revient très, très, très bientôt. Il va apparaître sur les nuées du ciel. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, Jésus va venir chercher son Église. Et l'Église va partir avec lui. Mais là, je parle de la véritable Église. Chrétien de nom. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et on va s'intéresser au dernier verset, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Un chrétien de nom, c'est quelqu'un qui ne s'occupe que de l'apparence. Il veut surtout paraître comme un vrai chrétien, mais il ne l'est pas. Il fait tout ce qu'il peut pour que tout le monde, en le voyant, dise « celui-là, c'est un bon chrétien ». Mais sa vie au quotidien démontre l'inverse. Je dirais, peut-être, on le considérera comme un véritable saint dans l'Église ou dans certaines situations de sa vie où il sait qu'il doit paraître comme un vrai chrétien, mais dans le quotidien et dans le relationnel, dans ce qui se passe chez lui, avec sa famille, avec d'autres personnes plus proches, la chose est complètement différente. On a une apparence une apparence. Jésus dit d'ailleurs aux religieux de l'époque, il leur dit, vous faites pour l'apparence même de longues prières sur les places publiques. Oh, quand on vous entend là sur les places publiques et qu'on vous regarde, on dit, oh, quel homme pieux, quelle piété extraordinaire possède cet homme-là. Mais on ne trompait pas le Seigneur. Quelqu'un a dit à juste raison, quelqu'un a dit ceci, il y a trois façons de considérer l'homme, de considérer l'être humain. Il y a d'abord ce que nous pensons de nous-mêmes. Il y a ce que les autres pensent de nous. Et c'est là que se manifeste l'apparence. Et enfin, il y a ce que Dieu sait de nous. Et le plus important, c'est ce que Dieu sait de nous. On a l'apparence de la piété, mais on en renie ce qui en fait la force. C'est quoi qui fait la force de la piété? Eh bien, ce qui fait la force de la piété, c'est notre vie avec Dieu. C'est notre véritable relation avec le Seigneur. C'est, eh bien, la relation que j'ai avec la parole de Dieu. C'est le fait que, eh bien, je passe du temps avec le Seigneur, dans ma communion avec lui, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans l'intercession même. Je me tiens à ses pieds, alléluia. Et parce que j'ai cette vraie relation avec Dieu, alors je connais la force de la piété. Souvent, on m'a posé la question, pasteur, c'est quoi votre différence? C'est quoi la différence entre votre religion et les autres religions? Je dis toujours, j'ai pas de religion. Je n'ai pas de religion. J'ai une relation. J'ai une relation avec le Dieu vivant et vrai. Je peux lui parler et béni soit son nom. Il est celui qui parle à mon cœur aussi. Je peux entretenir avec lui des moments intimes, des moments de communion personnelle. Et cela, eh bien, va raviver ma foi, ma piété, ma confiance en lui. Cela va, eh bien, agir en moi, que Dieu soit béni. On a besoin, si vous voulez être des chrétiens authentiques, il vous faut certainement une piété réelle et une communion certaine avec Jésus. Si vous n'avez pas cela, vous risquez de devenir un chrétien de nom qui n'a que l'apparence du chrétien, mais qui n'en est pas un véritablement. Vous me direz, mais chrétien, c'est juste parce que je suis né de nouveau. Ouais, mais quand tu es né de nouveau, c'est parce que Dieu t'appelle à la communion avec lui. Il t'appelle à la communion avec lui. Ce n'est pas pour que, eh bien, ensuite, tu mènes ta vie comme bon te semble et puis et tout ira bien. Non. Si le Seigneur m'a sauvé, c'est pour que j'aie ensuite avec lui une vraie relation. La deuxième chose qui va démontrer si je suis un chrétien de nom ou pas, c'est l'attitude que je vais avoir quant à la volonté de Dieu. J'aimerais dire qu'un chrétien de nom, de façade, d'apparence, ne s'occupe pas ou très peu de connaître la volonté du Seigneur et de la mettre en pratique. Il lui suffit de paraître devant les autres comme quelqu'un de formidable, de merveilleux, il s'en contentera. Mais connaître la volonté de Dieu, savoir ce que Dieu désire et faire la volonté du Seigneur, ça, c'est pas la chose qui l'intéresse le plus. Lorsque Paul s'est converti, Saul de Tarse, vous vous rappelez certainement, sur le chemin qu'il amenait de Jérusalem à Damas, cette lumière vient briller, Saul est mis à terre, il va perdre la vue et il entend une voix qui lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul répond par cette parole d'abord « Seigneur, qui es-tu ? » La première chose qui est importante, c'est de connaître le Seigneur, pas vrai ? Et ensuite, il dit une deuxième chose qui me semble fondamentale en réalité. Il dit ensuite, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il a compris très rapidement, tout de suite, immédiatement, que maintenant, ce n'était plus ce que lui voulait qui comptait, mais que c'était la volonté de Dieu qui comptait pour lui. Et immédiatement, il se met à la disposition de la volonté de Dieu. Il dit à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le vrai chrétien, c'est celui qui dit à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Je suis prêt à faire, Seigneur, ta volonté. » Et c'est très important cela. Beaucoup trop de gens négligent cet aspect de la vie chrétienne. Écoutez ce que dit Jésus. Je vais vous lire juste quelques versets quant à la volonté de Dieu. Et j'espère que vous ne direz pas, cette parole est dure, hein, parce que c'est la parole du Seigneur quand même. Hein. Matthieu chapitre 12, le verset 50. Écoutez bien. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Alléluia. Quiconque fait la volonté de mon Père. Voyez-vous, Jésus disait dans les évangiles, il disait ceci, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, Jésus parle encore de la volonté de Dieu et il dit ceci, chapitre 12, verset 47, il dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Non, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Regardez ce que dit encore le Seigneur, Jean chapitre 5, le verset 30. Il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, dit Jésus. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est le maître qui parle. Il a plié sa volonté à la volonté de Dieu. Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémané, il dit, « Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Jésus a toujours fait la volonté du Père. Il dit encore, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, qu'en est-il de nous? Que dit la Bible nous concernant par rapport à la volonté de Dieu? Les lettres de Paul sont assez explicites sur cela. Mais si je vais dans Éphésiens chapitre 5 déjà, Éphésiens chapitre 5 et le verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je dois donc comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Peut-être quelqu'un me dira, mais c'est difficile cela. Non, je ne crois pas que ce soit plus difficile que cela. Je crois que déjà, si on le désire dans notre cœur, c'est un point essentiel. Et ensuite, on peut demander au Seigneur, hein, « Fais-moi connaître ta volonté, Seigneur. Révèle-moi c'est quoi ta volonté. » Vous savez, souvent, quand j'ai parlé avec les gens de la volonté de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens cherchent la volonté de Dieu ou quand ça ne va pas, ou aussi parce qu'il y a des choix très importants à faire dans leur vie. Alors là, on cherche la volonté de Dieu. Mais j'aimerais vous indiquer quelque chose de très important. Je ne crois pas que Dieu se soit occupé de nous parler de sa volonté sur les grandes lignes de notre vie ou sur les moments où c'est difficile pour nous. Je suis persuadé d'une chose, c'est que si vous lisez attentivement les Écritures, c'est que Dieu s'est occupé de nous parler de sa volonté sur le quotidien de notre vie. Ce qui fait le chaque instant de nos jours. Et c'est là qu'il faut aller chercher la volonté de Dieu. Pas vrai? C'est là qu'il faut comprendre, c'est là qu'il faut savoir. Et Paul dit, bien comprenez quelle est la volonté du Seigneur. la même lettre aux Éphésiens au chapitre 6 et verset 6, il est question eh bien, de faire de bon cœur la volonté de Dieu. Vous voyez ? Pas en traînant les pieds là. Hein, on dit, oh, ouais, c'est vrai, Dieu me demande, il faut que je le fasse, mais on n'a pas envie de le faire. Pas vrai ? Seigneur dit, non, non, je veux que tu fasses de bon cœur la volonté de Dieu. Et vous savez pourquoi il est possible de faire de bon cœur la volonté de Dieu ? Parce que la Bible affirme ceci, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Si c'est vrai, si je le crois, si c'est l'Écriture qui le dit, eh bien quand je fais la volonté de Dieu, ça devrait me rendre heureux, oui ou non ? Ah ouais, c'est vrai, pasteur, c'est vrai, Seigneur veut que je fasse ça, mais... Oh Seigneur, touche son cœur pour qu'il comprenne que c'est bon de faire la volonté de Dieu. C'est important de la faire. Regardez ce que dit encore le chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens. Paul parle d'un certain Épaphras. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Épaphras, je pense que oui. Bien voilà ce qu'il est dit d'Épaphras. Épaphras qui est dévote vous salue. Attendez, je vérifie que c'est bien le bon texte, oui. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, déjà afin que vous teniez bon. Alléluia. On prie les uns les autres pour qu'on tienne bon, pour que tout le monde tienne bon. Hein. Parce que les temps sont difficiles et je ne sais pas si ça va s'arranger, hein, je peux vous dire. Hein. J'ai peur que ça ne s'arrange pas, hein. Mais on prie les uns pour les autres afin qu'on tienne bon. Alléluia. Et puis il continue, il prie comme des hommes faits, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Eh bien, parfois, il avait compris quelque chose. Il avait compris que ce n'était pas suffisant de connaître la volonté de Dieu. Que le plus important, c'était de la mettre en pratique. Alors, il prie et il demande à Dieu, « Seigneur, donne-leur un cœur qui va être pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. » Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu'en fait, on a besoin de prier pour demander à Dieu de nous donner un cœur disposé à faire toute sa volonté. Et Dieu est capable de nous donner un cœur comme ça. Amen. Toujours dans la même lettre aux Colossiens, chapitre 1er, il est dit ceci, verset 9. « C'est pour cela, dit Paul, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Voyez, ils ont prié pour les deux choses, pour la connaissance de la volonté de Dieu et pour la mise en pratique. Pour avoir un cœur disposé à mettre en pratique la volonté de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, je suis sûr de cela, de ce que je vais dire. Parmi le peuple de Dieu, je ne pense pas que le plus grand problème soit de connaître la volonté de Dieu. Je crois que le plus grand problème, c'est de la mettre en pratique. Je sais ce que Dieu veut, mais je n'ai pas envie de faire ce que Dieu veut. Je sais ce que Dieu veut, mais ça ne m'intéresse pas de faire ce que Dieu veut parce que ça va à l'inverse de ce que moi j'ai envie, de ce que moi je veux. Oui, mais si c'est Dieu qui le veut, c'est lui qui a raison. Il aura toujours raison. Et il vaut mieux faire la volonté de Dieu parce qu'un jour ou l'autre, ça va nous rattraper et on va découvrir qu'on a eu tort de ne pas faire ce que Dieu nous demandait. Quelquefois aussi, je constate cela, quelquefois aussi, on met du temps avant de faire ce que Dieu nous demande. Ça vous arrive de mettre du temps avant de faire ce que Dieu vous demande vraiment ? Et vous trouvez plein d'excuses. Quand j'étais jeune, à l'école, je trouvais plein d'excuses. Pour faire les mots d'excuses, j'avais refait la signature de mon père. Je m'étais appliqué pendant plusieurs jours à la recopier. Et après, je séchais les cours et je faisais des mots d'excuses, mais il fallait voir les excuses bidons que je mettais. Hein. Et j'étais sûr que mes profs, ils me croyaient en plus. Bon, ils ne me croyaient pas, certainement. Hein, voyez. Mais devant Dieu, il n'y a pas d'excuses. Devant Dieu, les excuses, ça n'existe pas. Et quelquefois, on tarde à faire ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut. Et on a tort d'attendre. J'ai tort d'attendre, d'accomplir ce que Dieu veut dans ma vie. Je vais vous expliquer quelque chose. Bon, vous ne le direz à personne d'autre. Hein. Tout début du confinement, premier confinement, je priais le Seigneur et le Seigneur m'a demandé quelque chose de très précis, de très précis. Eh bien, je vais vous dire, je suis vraiment qu'un homme. Hein. J'ai mis un an et demi à faire ce qu'il m'avait demandé. Un an et demi. Je trouvais toutes sortes d'excuses. J'étais là et je me laissais piéger par toutes sortes de choses. Et je ne faisais pas ce que Dieu m'avait demandé. Un an et demi. Un an et demi. Vous entendez bien ? Au bout d'un an et demi, je me suis retrouvé dans mon bureau. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire, puis j'ai commencé à prier. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne peux pas, Seigneur, continuer sans faire ce que tu m'as demandé. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, et je me rappelle parce que la date, elle est bien maintenant ancrée dans ma tête, c'est précis ici dans ma mémoire. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je vais faire ce que tu m'as demandé. Eh bien, je vais vous dire, mes amis, j'ai été stupide de ne pas le faire avant. Parce que qu'est-ce que Dieu m'a béni ensuite ? J'ai vécu des moments extraordinaires avec le Seigneur suite à la simple obéissance à la volonté du Seigneur. Mon ami, si tu tardes à faire ce que Dieu te demande, je t'en supplie, arrête de prendre le temps de faire la volonté de Dieu. Dès aujourd'hui, dès ce matin, dès maintenant, prends la décision et dis au Seigneur, ça suffit, tu m'as demandé ça, Seigneur, je vais le faire. Et vous verrez la bénédiction que vous allez en tirer de la part du Seigneur. Amen. Bon, le temps passe trop vite chez vous. Hein. Je prends juste un dernier point, si vous permettez. Enfin, dernier point, parce que je crois que c'est très important. Si vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 9, Paul va parler de deux catégories de chrétiens. Le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Quelle sorte de chrétien nous voulons être ? Un chrétien spirituel ou un chrétien charnel ? Paul va être confronté à la réalité de chrétiens charnels à l'église de Corinthe. Et effectivement, ce n'était pas simple. Si vous relisez l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, vous allez découvrir des tas de choses. Moi, j'ai toujours dit, pourtant, il vivait des choses quand même de l'esprit. Hein, mais j'ai toujours dit, Seigneur, moi, j'aurais préféré l'église de Philippe ou de Thessalonique. Ah, j'aurais aimé être pasteur de l'église de Thessalonique, mais l'église de Corinthe, Seigneur Jésus. Oh là là, ouais, ils étaient charnels. En fait, ça voulait dire qu'ils étaient encore dominés par la chair. Et parmi eux, il y avait de la dispute, des divisions, il y avait de l'orgueil, il y avait des procès entre eux. C'est terrible. Hein, il y avait aussi une tolérance du péché. Pas grave. Tout le monde le fait. Tout le monde. Sauf l'Église. Pas vrai ? Pas vrai ? Ouais, on vit dans la débauche, mais c'est pas méchant. Le monde vit comme ça aujourd'hui. Le monde peut-être, mais pas l'Église. Mais pas l'Église. Parfois, ça me réjouit parce qu'il y a quand même de bons témoignages. Je me rappelle d'une jeune fille, elle venait me voir, elle travaillait au milieu des enfants, tout ça. Et il y avait toutes sortes de personnes autour d'elle, de personnel, hommes, femmes, surtout femmes. Et quand ils ont appris que elle n'avait encore pas eu de relation avec un garçon, malgré qu'elle avait pris une vingtaine d'années à ce moment-là. Ils lui ont dit, mais toi, t'es vraiment bizarre, quoi. Comment ça ? Alors elle a dit, je me garde pour mon mari parce que c'est bon. Je sais que Dieu veut ça. Oh là là, tout ce qu'elle a entendu. Et moi, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Et j'aimerais vous dire, aujourd'hui, elle est mariée avec un pasteur. Alléluia. Le péché toléré, les procès entre chrétiens. Je parlais, je crois, avec ma femme de cela dans la voiture en montant. Là. Si vous allez dans la lettre de Paul aux Corinthiens, c'est terrible ce qui se passe au chapitre 6. Paul dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte, dit Paul. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. J'attire votre attention sur ce qu'il dit après. Certes, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Là, il met les choses bien au clair. Il dit déjà, c'est vraiment un problème qu'au milieu de vous, il y ait des procès entre vous. Quoi. Ça ne devrait pas exister. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes l'Église de Jésus. Vous êtes des disciples du Seigneur. Ce Seigneur qui vous a dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est vrai ou pas ? Mais à Corinthe, semble que ça ne fonctionnait pas ça. Et quelques-uns avaient des différends, eh bien les uns avec les autres. Oui. Et Paul dit, mais ça c'est déjà un défaut. Et il rajoute, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Parce que ça ne fait pas plaisir à la chair. C'est pas vrai ? Quand on subit une injustice, la chair, elle se rebelle. La chair, elle monte au créneau. Elle dit, ça, c'est pas normal. Ça, je ne peux pas le laisser passer. Ça, je ne peux pas le laisser faire. Mais dites-moi, est-ce normal tout ce qu'on a fait à Jésus ? Je connais un pasteur. Sa femme était enceinte, elle a accouché. Je crois que c'était un petit garçon. Et quelques heures après l'accouchement, l'enfant est mort. Je m'en souviens parce qu'elle était venue accoucher à Nice. Et quand l'enfant est mort, un des médecins est venu vers le papa, qui est pasteur. Et le médecin lui a dit, écoutez monsieur, je suis profondément désolé pour vous. Votre enfant est mort. Et il rajoute, et je vous avoue que c'est tellement injuste ce qui vous arrive. Et le pasteur l'a regardé. Il lui a dit, non docteur, non. Je vais vous dire la seule chose qui est injuste, c'est que Jésus soit mort à la croix à ma place. Je ne sais pas si j'aurais répondu ça. Mais voyez-vous, ici, Paul dit, mais vous ne seriez même pas capable de subir quelque injustice et de dire au fond, on a fait tellement pire au Seigneur. Si je lui appartiens, je dois m'attendre à ce qu'on me fasse du mal aussi. Pas vrai ? On me dit, oui, c'est vrai, mais quand même, quand c'est dans l'Église. Bah, Corinthe, c'est ce qui se passait. Et Paul leur dit, mais le problème, c'est déjà que vous avez ces différends, mais pire, c'est que vous n'êtes pas en mesure et capable d'accepter l'injustice qu'on vous fait subir. Le chrétien de nom n'accepte pas l'injustice qu'il subit. Il s'élève contre. Le chrétien charnel dit non, je ne veux pas de ça. Mais le chrétien spirituel, il se tourne vers le Seigneur. Et il dit, Seigneur, on t'a fait pire. Peu importe ce qui m'arrive. Je veux même te prier pour celui qui m'a fait du mal. Parce que ça, c'est être spirituel. C'est pas vrai ? J'étais dans une église et j'habitais au-dessus de l'église. Et il y a une chrétienne qui vient me voir, c'était à la fin d'une réunion. Elle vient me voir, elle me dit, Fred, faut que je te dise quelque chose, je ne peux pas le garder. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle était vraiment... Elle me dit, on sort de l'église, là, à l'instant, là. On sort de l'église. Là. Devant la porte de l'église, donc en dessous de chez toi, là, il y a trois frères, là. Trois frères, là. Il faut voir tout ce qu'ils ont dit sur toi. Il faut voir tout ce qu'ils ont raconté. La médisance qu'il y a eu. Alors, quand elle me l'a dit, comme je n'étais pas très spirituel, j'ai commencé à réagir. En moi-même, comment ça? On vient de finir une réunion, j'ai prêché de tout mon cœur, et derrière ça, ces trois frères, ils sont là, ils me descendent, etc. Et vous savez, j'avais envie de réagir vraiment, quoi. La prochaine fois que je vais les voir, là, tout ça. Et... Heureusement, j'ai eu un pasteur, je ne sais pas si quelques-uns ont connu le pasteur Burki. Le pasteur Burki m'avait appris une chose, il m'avait dit, tu sais, quand tu reçois un coup, quand avant de réagir, tu prends le recul. Prends le recul, tu pries et puis tu vois. Heureusement qu'il m'a dit ça, parce que c'est ce que j'ai fait ce moment-là. Je vous assure, au tout début, je n'avais pas envie, hein, mais j'ai dit, je vais écouter M. Burki quand même un peu. Hein. J'ai pris le recul, j'ai commencé à prier, à lire ma Bible. Bon, c'était compliqué, je vais quand même leur parler, c'est pas normal, tout ça. Et puis un matin, j'étais là, j'étais avec ma Bible, et je lisais un texte. Ça va aller pour ceux qui n'aiment pas lire ces livres. Je lisais un texte dans le livre de l'Exode, c'est texte où il est question de la construction du tabernacle, avec tous les détails. Vous aimez lire ça? Vous intéressez? C'est formidable. Donc je lisais ça, et après avoir lu ça, j'avais un commentaire à côté, que je lisais en même temps, puis je me suis arrêté de prier, de lire, puis je me suis mis à prier. Et je me suis mis à prier d'une drôle de façon, parce que j'ai commencé à dire, Seigneur, je visualise là le tabernacle, et je dis, voilà, Seigneur, je vais arriver devant le tabernacle, et il y a une seule porte, Seigneur. Et je suis ramené, Jésus, c'est la seule porte qui me fait rentrer dans la présence de Dieu, alléluia. Je rentre dans le tabernacle, la première chose que je vois, c'est l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. Et je comprends à ce moment-là que le seul sacrifice qui a pu me sauver, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et puis juste après, il y a eh bien, comment on appelle ça, là où on se lave, tout cela, c'est l'autel, non, c'est pas l'autel, c'est, ah, le nom m'échappe. Ça va me revenir. En tout cas, à cet endroit, eh bien, on se lavait les mains, on faisait toutes sortes, on lavait les instruments, tout cela. Et ça parle de la sanctification. Et quand je visualise cela, je dis, tiens, ça c'est aussi mon Seigneur. Car la Bible dit que Christ, il est ma sanctification. Et à ce moment-là, au moment où je prie de cette manière-là, je réalise que mes yeux, les yeux de mon cœur, ne sont fixés que sur une seule personne, Jésus. Et au moment où je le réalise, quelque chose se passe à l'intérieur. Il prend la colère que j'avais, les mauvais sentiments que j'étais en train de nourrir là. Il les prend et je sens le Seigneur qui me les enlève. Et je me mets à commencer à aimer ses frères comme je ne les avais jamais aimés. Et à ce moment-là, je commence à prier. Seigneur, bénis-les. Seigneur, fais ton œuvre dans leur cœur. Je ne les ai jamais vus. Je ne leur ai jamais parlé de cette histoire. J'en ai pas eu besoin. Par la grâce de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur, j'ai été capable d'adopter une attitude spirituelle. Amen. Charnel ou spirituel? Être spirituel, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit, manifestant les dons et le fruit de l'Esprit. C'est aussi être transformé par le Saint-Esprit. Vous avez tout cela dans la Bible. Conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, transformé par le Saint-Esprit. C'est ça, être spirituel. Quand vous gardez dans vos cœurs de la rancune, de l'animosité, ou vous avez eh bien, un jugement sur telle ou telle personne, ou alors vous avez une attitude, vous calomniez. Un jour, j'arrive chez un chrétien là, Enfin, du moins, je suis allé le voir parce que ma mère était venue me voir. Elle avait été chez ce chrétien et elle m'avait dit « Oh, c'est vrai, Fred, ce qu'on m'a dit sur telle personne, là ?» Elle dit « Qu'est-ce qu'on t'a dit ?» Elle me raconte tout ce qu'on lui avait dit. On avait calomnié un frère, on avait dit toutes sortes de mauvaises choses. « Oh là là, je dis, ça, c'est pas bien. » Alors, je suis allé voir le frère qui avait calomnié et je lui dis « Écoute, je voudrais te poser une question. » Ma mère, elle est venue te voir là. Est-ce que ce que tu lui as dit, ça lui a fait du bien? Est-ce que ça a fortifié sa foi? Est-ce que ça l'a fait grandir spirituellement? Est-ce que ça l'a béni? Elle a commencé à comprendre ce que je lui disais. Je dis, tu vois le pire dans cette affaire, parce que c'est là quand même qu'il faut qu'on en arrive à un moment donné ou à un autre. C'est que pendant qu'on est en train de se mordre les uns les autres, pendant peut-être qu'on répand des calomnies les uns sur les autres, à l'extérieur, sur Nice, il y a 400 000 personnes. Et elles meurent sans Jésus. Mais ça, j'ai l'impression que ça ne te fait pas grand-chose. Il m'a regardé, m'a dit merci. Je vais beaucoup réfléchir à ce que tu es en train de me dire. Croyez pas qu'on a besoin de d'éliminer de nos vies, de nos cœurs, toutes ces choses-là. Tu n'es pas bien avec un frère. Un jour, tu es dans une réunion, je dis, c'est incroyable, des gens qui, dans les églises, ne se parlent même plus. Et je dis comme ça. Et là, il y a la belle-fille, et là-bas, il y a la belle-mère, et elles ne se parlent même plus. Je ne savais même pas que j'avais pointé une belle-fille, une belle-mère qui ne se parlaient plus. C'est tragique, vous ne trouvez pas ? Après, on dit, mais Seigneur, comment ça se fait que tu n'agis pas ? Charnel ou spirituel ? Rempli du fruit de l'esprit ou les œuvres de la chair se manifestent encore ? Dites-moi, répondez-moi. Répondez surtout à Dieu. Seigneur, si je suis encore charnel, il faut que tu viennes à mon aide. Tendance à s'emporter. L'impatience. Ouais, Seigneur, aide-moi. Le manque de douceur, de maîtrise de soi. Toutes ces œuvres qui sont charnelles là, que le Seigneur veut éliminer de nos cœurs et nos vies pour que nous devenions des gens spirituels. Spirituels qui vont faire la différence. On a un commissaire aux comptes à l'église à Nice et il est là aux assemblées générales. Et on avait un souci dans l'assemblée, pas un souci très, très, très important, mais quand même un souci. Et j'avais dans l'église, notamment dans le bureau, un frère, vraiment un homme spirituel. Un homme spirituel. Et vous savez, un homme spirituel, ça fait la différence. Et alors qu'on était là, qu'on ne savait pas trop comment faire, comment... Lui, il se lève et dit, écoutez les frères. Et il donne 2-3 paroles. Le problème était réglé. Vous entendez ? Et le commissaire aux comptes qui était là, il est venu me voir à la fin de l'Assemblée Générale. Il me dit, c'est qui ce monsieur ? C'est qui ce monsieur ? Je dis, ben, c'est un membre de notre bureau, de notre CA, un homme de Dieu, vraiment. Et il me dit, monsieur le pasteur, cet homme, il a quelque chose. Je me suis dit, Seigneur, tu vois, lui, il vient de voir. C'est quoi un homme spirituel ? Eh bien, que Dieu fasse que quand on nous voit, quand on nous regarde, quand on nous entend, même ceux de l'extérieur puissent dire « Il a quelque chose de différent des autres. » Amen. Parce qu'on est devenus des hommes et des femmes spirituelles. Que Dieu vous bénisse.